On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Nous allons préparer aujourd'hui la sauce d'Aphrodite. Alors, il est d'usage de dire qu'il y a des fruits, des légumes et des épices qui sont vraiment aphrodisiaques.
Le gingembre, on dit.
Le gingembre, oui. La truffe, qui est considérée comme le plus gros aphrodisiaque, et le céleri et les câpres.
Maïté, vous m'avez dit qu'aujourd'hui, on allait préparer pour ce soir un repas d'amoureux.
Un repas d'amoureux.
Ça vous arrive souvent d'en faire?
Non.
Non?
Mais ça peut arriver.
Et votre Pierrot, alors, vous le gâtez pas un peu?
Il y a longtemps que c'est pas arrivé, mais pourquoi on le fait pas?
La promesse d'un dîner en amoureux avec Maïté, ça vous excite, non?
Oula.
Ah, le daguin,
comment dire,
grand sourire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster le studio 521 de la Maison de la Radio, un studio aux couleurs rouge passion de France Inter, pour une émission très portée sur la chose en ce dimanche 10 février, à 4 jours de la Saint-Valentin. Attention coquins et coquines, aujourd'hui on vous fait l'amour en cuisine, de la table au lit, du repas aux ébats. Il n'y a qu'un pas ou quelques plats qu'on vous mitonne aujourd'hui avec sentiment. Promis, on va essayer quand même d'éviter les grosses ficelles et les tartes à la crème de la cuisine aphrodisiaque pour explorer, par exemple, la charge sexuelle du potager. Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Vous intervenez régulièrement au micro dont on va déguster en qualité de maraîcher, d'expert en permaculture, de formateur, et votre dernier ouvrage sort le 19 mars chez Terre Vivante et il s'intitule
La vie érotique de mon potager.
Oui, parfaitement. La vie érotique de mon potager, préfacé par Anna Gavalda. Un livre fourmillant d'anecdotes, de conseils, tout en humour, érudition et sensualité. C'est tout vous, Xavier, en fait.
Ah bah merci beaucoup.
Vous allez nous raconter le talent insoupçonné de certains des légumes que vous avez apportés et qui sont là tout fiers sur le plateau dont on va déguster. Parmi les plantes que vous évoquez dans votre livre, il y en a une qui intéresse particulièrement notre seconde invitée. C'est un rhizome souterrain originaire d'Inde aux étonnantes tonalités à la fois fraîches et chaudes. On évoque le gingembre avec Bina Paradin. Bonjour.
Bonjour.
Franco-indienne, fondatrice de Bendy, une gamme de produits bio et végétariens qu'on aime beaucoup dans l'équipe dont on va déguster. Vous faites
Merci.
Un excellent travail dans le sens de la transition écologique et vous êtes aussi une super cuisinière, vous allez nous le prouver. Nous proposer notamment des usages assez inattendus avec le gingembre dans des recettes pas forcément exotiques.
Non, dans des recettes qui peuvent se faire au quotidien pour, avec des légumes du potager.
Oui, les légumes du potager de Xavier Mathias. Voilà comment s'opèrent les rencontres sur le plateau dont on va déguster. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Déborah Dupont et Arnaud Daguin. Bonjour les amis.
Bonjour
à
Bonjour.
Toutes et à tous.
Déborah.
Moi, je vais vous proposer un petit coup de rein, mais on sera moins végétal chez moi.
Ah, très bien, on attend ça. Arnaud ?
Je vais essayer de faire un bon coup tout court.
Réagissez dans le courant de cette émission via l'appli de France Inter ou sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com. Pour retrouver nos recettes, nos infos, le podcast de l'émission, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de faire l'amour en cuisine, deux petits coups de cœur. Un événement, tout d'abord, Arnaud, à nous signaler.
Je voudrais juste vous donner rendez-vous à la Cité universitaire entre le 20 et le 22 février pour les rencontres internationales de l'agriculture du vivant.
Important.
Co-organisées par Vers de Terre Production et l'Association pour une agriculture du vivant. Voilà, rendez-vous avec 50 intervenants du monde entier qui vont venir nous parler de ce que c'est qu'un sol vivant et peut-être un avenir pour nous autres, les humain.
Ah, des journées pleines de promesses, c'est ouvert à tout le monde, c'est entrée libre?
C'est entrée libre, mais dépêchez-vous.
D'accord. On va vous noter toutes les références et toutes les informations sur le site internet de l'émission. Et moi, je vous propose de prendre le bouillon. Si je vous dis Chartier, évidemment, vous me répondez le mythique bouillon ouvert rue du Faubourg Montmartre en 1896. Je m'y suis attablé plusieurs fois ces derniers mois. Il faut bien reconnaître que j'ai une relation un peu je t'aime moi non plus avec Chartier. Devant le spectacle de cette salle d'époque classée avec sa verrière, ses meubles à tiroirs, les peintures du peintre Germont, ben forcément je lâche un gros waouh. Quand je baisse le nez dans mon assiette, entre poireau vinaigrette à la va comme je te pousse et poulet rôti un peu desséché, là je dis plutôt bof bof. Et au moment de l'addition, à moins de 15 euros par personne, je m'écris ouf. La saga Chartier continue avec une deuxième adresse qui vient d'ouvrir à Montparnasse, à l'endroit même, figurez-vous, où les frères Chartier avaient ouvert en 1903 un second Chartier dans la foulée du premier Chartier des Grands Boulevards qui était un énorme carton à l'époque. Après être passé par toutes sortes de péripéties, Chartier redevient Chartier à Montparnasse avec son prodigieux décor Art Nouveau, ses murs en céramique de Louis XIII, ses miroirs, ses boiseries chantournées, ses laitons rutilants. Et la bonne surprise, j'y étais il y a 3 jours les amis, eh bien ça se passe aussi dans l'assiette, parce que l'assiette a pris de bonnes résolutions. Ne nous emballons pas, l'œuf maillot était toujours un peu trop cuit avec un jaune grisonnant sur les bords, un petit peu sec et sableux en bouche, mais avec une excellente mayonnaise maison et un prix de 2 euros, il est quand même difficile de se plaindre. Le céleri rémoulade manquait certes un peu de caractère dans son assaisonnement, un petit coup de fouet moutardé lui ferait le plus grand bien, mais c'était frais et très correctement servi pour 2,70€. 2,70€ le céleri rémoulade à Paris en plein Montparnasse. Au rayon plat, je me suis délecté des tripoux de la maison avéronnaise Savy. Vous les connaissez sans doute.
Bah oui.
Mon cher Arnaud.
Bah oui.
Pour 10€, tripoux, un plat traditionnel du Rouergue qui était confectionné dans les fermes le dimanche matin avant d'aller à la messe. On lançait ça. C'était de la panse de veau roulée, longuement mijotée dans un bouillon très aromatique avec du vin blanc, du céleri, des carottes, une touche de tomate. C'était très d'un opilo sous les molaires. Voilà, c'est tripoux de la maison Savy au bouillon Chartier Montparnasse. Pour bistrotter à prix populaire dans un superbe décor Art Nouveau, c'est au 59 boulevard du Montparnasse. Ouvert tous les jours, au déjeuner et au dîner. Pas de réservation, il faut affronter la queue. À la console, notre réalisatrice Lorane Thomas avec Antoine Gomez et Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. Vous voulez du bon gros rock anglais? Fit par Fat White Family, on va déguster, vous stimule l'appétit sur France Inter.
I could not believe it, could not believe my eyes. The thing that I saw down there, down between your thighs. I can see it over and over again. Roll over at the lock, holy blood skin. If I turn it over, would you make it work? When you plug it in, will you dig the dirt? Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise, I pray and I pray God. My refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyalty dissolves. Inside a stranger, necessity of songs.
Et si on jouait à Belle Amie ? Souvenez-vous de cette scène du roman de Guy de Maupassant qui se déroule au Café Riche, au lieu de la gastronomie et de la galanterie sur les grands boulevards à Paris dans les années 1881. Georges Duroy, alias Belle Amie, est invité par Madame de Marel à dîner dans un cabinet particulier en compagnie du couple Forestier.
Sa femme ne disait rien, paraissait absorbée et, les yeux baissés vers la table, elle souriait au verre de ce sourire vague qui semblait promettre toujours pour ne jamais tenir. Les huîtres d'Ostende furent apportées, mignonnes et grasses, semblables à de petites oreilles enfermées en des coquilles et fondant entre le palais et la langue ainsi que des bonbons salés. Puis, après le potage, on servit une truite rose comme de la chair de jeune fille. Et les convives commencèrent à causer. Comme la première entrée n'arrivait pas, il buvait de temps en temps une gorgée de champagne en grignotant des croûtes arrachées sur le dos des petits pains ronds. Et la pensée de l'amour, lente et envahissante, entrait en eux, enivrait peu à peu leur âme comme le vin clair tombé goutte à goutte en leur gorge, échauffait leur sang et troublait leur esprit. On apporta des côtelettes d'agneau tendres, légères, couchées sur un lit épais et menu de pointes d'asperges.
Une lecture d'Hervé Pochon, qui s'y connaît dans le commerce amoureux d'ailleurs. Vous pouvez retrouver notre ami comédien et grande voix de France Inter dans une très belle pièce, L'amour dans tous ses états, une pièce de Guy Corneau au théâtre Tristan Bernard à Paris. Allez-y, les yeux fermés, c'est un spectacle formidable qu'on ira voir de préférence en couple d'ailleurs. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'était une lecture de cette fameuse scène dans le cabinet particulier du Café Riche. J'observe que ce repas ponctué d'huîtres mignonnes et grasses, de truites roses comme de la chair de jeune fille, se termine quand même, cher Xavier Mathias, par des pointes d'asperges.
Eh ben oui, l'asperge, c'est presque trop facile en fait, tellement elle est suggestive rien que par elle-même. Cela, donc Pline l'avait déjà vu, Rabelais bien sûr est pas passé à côté. Il se trouve que oui, l'asperge effectivement favorise l'émission de testostérone.
Ah, donc, oui. Donc ce n'est pas que sa forme avec sa pointe, on va la qualifier de turgescente peut-être.
Voilà, c'est ça, oui, le petit turion
insolent. Ce n'est pas que la forme, oui, c'est ça. Il y a aussi véritablement une substance dans l'asperge qui encourage la production de testostérone.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça nous amène à la théorie des signatures. Vous savez, les semblables soignent les semblables. Et effectivement, la ressemblance stupéfiante par moment du petit turion insolent d'une asperge avec les effets que ça peut avoir, c'est tout à fait étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ça se vérifie, mais que ce pressentiment-là, il avait été vraiment bien eu avant par Pline, Rabelais, etc.
Oui, mais c'est un moment de la plante que nous choisissons d'arrêter nous-mêmes. C'est-à-dire, on est bien d'accord que la plante de l'asperge, elle peut aller jusqu'à une plante arborescente.
Ça peut faire une liane.
Quasiment ouais. Ligneuse, donc c'est ce stade-là que nous choisissons, nous, culturellement. Voilà. Et donc, c'est pas un hasard non plus.
Enfin, je suis désolé, en plus, je le fais pas exprès, mais ce stade-là, c'est celui qu'on appelle le stade de la turgescence.
Ah oui.
Donc, effectivement, c'est là qu'on va interrompre la croissance d'une petite pousse d'asperge.
Et ce coquin de Louis XIV en voulait, paraît-il, à toutes les saisons. Car l'asperge, la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt. On dit souvent, d'ailleurs, que c'est le premier légume du printemps qui arrive sur nos étals.
Oui, c'est ça.
Mais à l'époque de Louis XIV, on en voulait à toutes les saisons.
Alors, Louis XIV, lui, je pense qu'il mettait une grande importance à la testostérone, donc il en voulait absolument tout le temps, mais il voulait de tout le temps, hein, en fait. Hein, Louis XIV, c'était le gros travail de la cantine, c'était de parvenir à satisfaire un client aussi exigeant.
Bina Paradin, l'asperge, ça vous évoque, au-delà de sa dimension évidemment sensuelle, en cuisine, c'est un légume que vous appréciez ?
C'est un légume que j'adore, et j'adore le printemps qui est vraiment la renaissance. Et moi, je ne suis pas une grande fan de l'hiver, bizarrement. Et donc pour moi, l'asperge se prête à tous les mariages finalement, oui. Et avec aussi bien des choses très classiques, très françaises qu'on connaît tous, vinaigrette et autres, mais qu'on peut toujours relever d'une pointe d'épices, comme avec un curry indien par exemple, qui va très bien avec l'asperge.
Très bien, et bien écoutez, en voilà une formidable nouvelle, exotiser l'asperge avec un curry indien. Cuisine et sexe, on va pas le répéter toute l'émission, mais évidemment les liens sont intimes. Alors il y a bien entendu des passerelles lexicales, dans les deux cas on parle d'ailleurs saveur, de plaisir de bouche, d'appétit. La bonne chair n'est pas si éloignée de la chair. Il y a aussi des connexions symboliques, bien sûr. D'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est qu'en lisant la préface que Anna Gavalda a consacrée à votre traité, Xavier Mathias, La vie érotique de mon potager, bah évidemment, elle ne peut pas s'empêcher d'évoquer cette façon de pimenter ces textos, de les transformer même en sextos, avec des sexmojis ou des émoticônes un peu suggestifs. La pêche bombée, qui symboliserait les fesses.
On peut voir ça comme ça, ouais.
L'aubergine, évidemment.
Oui, forcément.
Un gros succès.
Inévitable. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, bah, c'est à peu près tout. Le cerise, qui symboliserait les seins, paraît-il.
Ben ça, je laisse à chacun le soin de choisir.
Ils ne nous ont pas encore mis au point, par contre, un émoticône aïe.
Non,
c'est dommage.
Bah, curieusement, parce que l'ail, c'est une plante adaptogène, donc les plantes adaptogènes.
Adaptogènes.
Voilà, c'est toute cette catégorie de plantes qui, pour schématiser, sont bonnes pour tout, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elles nous aident à passer n'importe quelle forme de stress, elles aident à la convalescence, elles aident aussi à la santé physique globale. Donc l'ail en est une, mais on a aussi dans les adaptogènes le maca, pour ceux qui ont entendu parler, le gingembre en fait partie, etc. Et l'ail est une plante adaptogène, mais est-ce que les composés soufrés sont super bons pour la santé? Je fais toujours attention quand je dis à ça, parce qu'on a du mal à parler des vertus des plantes dès qu'on a affaire à quelque chose de médical. Donc c'est sous toute réserve, etc., etc. Néanmoins, voilà, on a des témoignages anciens de l'usage de ces plantes-là. Il y avait un usage quand même beaucoup moins drôle pour l'ail.
Est-ce qu'on ose révéler cette pratique d'un autre âge, faisait beaucoup dans les campagnes avec l'ail?
Voilà, c'est ça. Mais donc là, je laisse le soin aux auditeurs de peut-être consulter le livre quand il sera publié. C'était pas très agréable pour ces dames qu'on suspectait d'être enceintes. Voilà.
C'était un test de grossesse avec de l'ail.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
Adaptogène, donc, rappelons que l'ail, comme le gingembre, on va y venir, est adaptogène, c'est-à-dire qu'il a la propriété d'agir sur la fatigue, particulièrement sur le stress, de redonner du tonus et de stimuler les défenses immunitaires. Est-ce que vous avez du céleri? Oui, je l'aperçois, il est... Alors, je parle du céleri boule, je ne sais pas si le céleri branche a d'ailleurs les mêmes vertus, je pense que oui.
Oui, il contient de la pygénine aussi, oui, oui, oui.
C'est ça, mais là, on parle en l'occurrence du rave ou de la rave,
voilà.
Céleri rave. Alors, vous avez cité un nom barbare qu'il faut nous expliquer.
Alors, l'apigénine.
Oui.
Donc, que moi, j'ai envie d'écrire api avec H-A-2-P-Y.
Hein, formidable, comme peu heureux,
voilà, en anglais. Oui, oui. Parce que ça favorise la spermatogénèse. Donc, oui. Autant en profiter. Et donc, il y avait un dicton autrefois qui disait si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome.
Excellent.
Donc, on est motivé. Madame de Pompadour, d'ailleurs, en faisait des gratins dévoloutés à son Louis XIV d'amant. Donc, ça lui avait pas du tout échappé, ce détail-là. Donc, Louis XIV, on peut imaginer qu'entre asperges toute l'année, des petits veloutés, etc., ça devait plutôt aller bien pour lui de ce côté-là. Mais c'est le céleri, en fait, c'est très étonnant de constater à quel point la nature prend soin des hommes. Mm-hmm. Et qu'en hiver, on a énormément de plantes qui favorisent l'appétit, qui stimulent, etc. Et le céleri fait partie de celle-là.
Madame de Pompadour, qui proposait régulièrement un gratin de céleri à son cher Louis XV préféré. Preuve que là aussi, ça stimulait effectivement l'appétit. Ce qu'il y a d'intéressant dans toute cette pharmacopée qui est à notre disposition dans le potager, c'est qu'elle fait référence à un traité des humeurs et des signatures. Ces observations empiriques que l'on faisait sur les propriétés et les vertus de différents ingrédients, les légumes mais également d'autres. Et on se rend compte que la plupart de ces vertus ont en fait été vérifiées des siècles plus tard, scientifiquement.
Voilà. Oui, c'est ça qui est tout à fait étonnant. Juste une petite parenthèse pour m'excuser, j'ai dit Louis XIV, alors qu'il s'agissait bien de Louis XV.
Oui.
Voilà une petite erreur au passage. La théorie des signatures, donc c'est qui se ressemble se soigne, en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des choses tout à fait étonnantes, où la pimprenelle, par exemple, avec ses feuilles pourpres, était préconisée pour les maladies du sang. Mmh. Voilà, on s'est aperçu par la suite scientifiquement que les racines de pimprenelle ont effectivement des vertus hémostatiques. Donc c'est ça qui est tout à fait étrange, c'est que entre théorie des signatures, théorie des humeurs, humeur chaude, froide, bilieuse, etc., ce qui nous a valu l'expression bonne humeur, mauvaise humeur, être bilieux, être sanguin. Donc,
et oui, le tempérament sanguin, tout ça, voilà. C'est hérité effectivement de ces théories.
Oui, être froid, même être froid, voire frigide, vient de cette période de la théorie des humeurs. Et effectivement, c'est tout à fait étonnant de constater à quel point les listes, théorie des humeurs, théorie des signatures et ce que nous apporte comme confirmation la science moderne, en fait, ça colle pas mal hein, quand même, hein, tout ça. Hein.
C'est assez, assez intriguant.
Oui, oui.
Oui et non, en fait, ça fait quand même des milliers d'années que nous existons et qu'on n'a pas l'œil dans notre poche, donc on est capable quand même, même avant toute science corroborative, on est quand même capable de constater des relations de cause à effet, pas forcément unilatérales d'ailleurs, hein, quelquefois très complexes. Moi, je ne trouve pas ça très étonnant que la science aujourd'hui soit capable de corroborer des choses qu'on a constatées il y a déjà quelques milliers d'années. Ça ne m'étonne pas trop.
J'ignorais, par exemple, le destin libertin d'une plante considérée vraiment comme une mauvaise herbe, très envahissante dans nos potagers et nos jardins, c'est l'ortie. Incroyable, avec des traditions libertines, limite, enfin dans le genre, fais-moi mal.
Oui, un petit peu dur quand même.
Mais alors, vous en avez apporté de l'ortie?
Oui, 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 parce que là...
On va pas faire de démonstration sur le plateau dont on va déguster?
Pas tout de suite, en tout cas.
On va attendre un peu.
Et l'ortie, en fait, c'est, donc là, en ce moment, elle ressort. Hein, je le dis pour les amateurs, là, c'est vraiment le moment de commencer à la récolter. Elle est très, très bien. L'ortie, en fait, elle était recommandée parce qu'elle a des propriétés vasodilatatrices.
Et oui.
Et donc, alors c'était recommandé de façon assez sauvage, hein, quand même. C'est-à-dire qu'on recommandait de se fouetter les parties génitales directement.
C'est ça, donc avec une application directe, en fait.
Oui, oui,
parce
qu'elle
est urticante, mais cette dimension urticante va de pair avec cet effet vasodilatateur.
Ce qu'on appelle un coup de fouet. Voilà.
Et, soyons clairs.
Mais après, il y a quand même Catherine Forzac qui avait une méthode plus douce. Elle c'était une croqueuse d'homme, hein, en plus. Donc elle préconisait plutôt de broyer des graines d'ortie avec du miel, etc. Donc c'était déjà beaucoup plus tranquille. Hein. On peut prendre un petit peu l'angle qu'on veut avec les orties.
Une bonne soupe d'ortie, c'est
donc
très, très
oui.
Bon.
Alors évidemment parce que c'est une source prodigieuse de protéines végétales évidemment, mais on peut suivre le conseil du poète latin Pétrone qui recommandait à tous les hommes qui ne parvenaient pas à obtenir une érection tout simplement de se fouetter les fesses, le dessous du nombril et les reins avec un bouquet d'ortie.
Ah, ça devait être très agréable.
Le coup de lame. D'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Salut les coquins, c'est moi l'aphrodisiaque. C'est moi le gingembre, la truffe, le chocolat, l'huître, le céleri, le piment, l'asperge. C'est moi le rhum et le poivre, et le champagne et le sablé au cannabis. C'est moi l'aphrodisiaque avec mon double effet qui c'est pas cool. Vas-y que je te désinhibe. 2, prends ça que je te vasodilate, c'est moi l'aphrodisiaque, le célèbre 2 en 1, héhé. Un 2 en 1, c'est déjà un plan à 3, gnarc, gnarc, gnarc. Non, 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 mais stop, ça va pas la tête, hein. Qu'est-ce que je raconte? On va couper moi ça au montage, Laurent, hein. On est en direct, bon. Désolé, oubliez mes propos, balancez-moi comme un goré, non. La cuisine dite aphrodisiaque n'a rien à voir avec ses grossièretés. La cuisine aphrodisiaque n'est en aucun cas un filtre d'amour administré à l'insu de sa proie. Non, ce n'est pas la drogue du viol. Ce n'est pas non plus un adjuvant supposé améliorer les performances de monsieur et la complaisance de madame, ou l'inverse. Non, toute cuisine doit être aphrodisiaque, parce que le premier ingrédient de la cuisine, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est le temps. D'ailleurs, quand on prend le temps de faire la cuisine avec amour, c'est très bon. Oui, la cuisine faite avec amour, c'est l'inverse du fast-food. Le fast-food peut se résumer, comment dire, à une éjaculation précoce culinaire. Alors que la cuisine, qui prend son temps, ne prend pas le vôtre. « Prends-moi, dit le temps à la cuisine, prends le temps des préliminaires, de flâner au marché, de sentir, de palper, de te laisser surprendre. » La cuisine, comme l'amour, demande une ouverture, et même plusieurs. De l'ouverture d'esprit, de la culture, de la curiosité, de la liberté. La cuisine aphrodisiaque, c'est la cuisine qui dit « oui, 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 encore !» C'est pas la cuisine qui dit « non, 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 j'ai la migraine. » La cuisine aphrodisiaque, c'est la cuisine du avec versus la cuisine du sans gluten, du sans gras, du sans alcool. Arrêtons le sang, ainsi que le conseiller le comte Dracula lors de son dernier régime. Pardon, je sors. Arrêtons le sans sucre, le sans sel, le sans beurre, le sans pain, le sans viande, le sans whisky, sans déconner. Arrêtons d'arrêter, croyez-moi. Et pour conclure, comme l'entend Jean-Claude Duss, exclamons-nous, plutôt que du Viagra, mangeons du bon vieux gras. Allez, merci. Faites-vous la cuisine et aimez-vous les uns les autres.
Merci beaucoup Arnaud Daguin pour cette bouffée de bonne humeur. Évidemment, vous évoquez dans votre chronique un filtre d'amour. En voici un qui a atterri comme par miracle depuis les frigos dont on va déguster jusqu'à notre studio. Ça ressemble à un jus, je vous propose de goûter. Bina, à vous, un petit commentaire de dégustation. Petite surprise, concoctée par notre réalisatrice Laurent Thomas. On a l'habitude de le goûter ce jus le vendredi matin.
Incontestablement du gingembre.
Ah oui, ouais. Mais alors, c'est bon non?
Très bon, très c'est très bon. Et de l'ananas non?
Oui.
Et de l'ananas absolument, hérité d'une recette africaine. C'est un jus de gingembre qui vraiment dépote pour le coup. Vous en pensez quoi Xavier?
Ça fait vraiment du bien à cette heure-ci, voilà, c'est parfait.
Et pourtant, on fait une infusion à chaud de gingembre, alors on en met pas mal, etc. On laisse refroidir, on mélange ça avec du jus d'ananas, du jus d'orange, il y a également du citron, un peu de sucre de canne, quelques feuilles de menthe si vous voulez, mais là, il n'y en a pas, et ça donne ce passionnant élixir qui donne la pêche. Moi, j'en bois depuis ce matin à 8h, je peux vous assurer je suis très en forme. Ouais, je suis très en forme, et la recette figure sur franceinter.fr, à la page, on va déguster le jus de gingembre de notre réalisatrice, Laurane Thomas. C'est un japonais installé à Paris depuis 2005, qui s'appelle Jun Miyake, dans un genre musical assez inclassable, entre mambo et envolée orientale. La musique, c'est comme la cuisine, ça se mélange.
Suspecté farouche, endolori. Jusque dans sa bouche, je l'ai. Thank you.
plaît, Gigondin à ma façon.
Ah, c'est délicieux. Ce sont deux cuisses de chevreuil. C'est pour deux. Ce sont deux cuisses de chevreuil fermes et délicatement écartées, fourrées de crème épaisse, mouillées de vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties charnues de la bête. Et elles sont fermement ligotées sur un lit de cresson.
Il est comment, le cresson ?
Il est tendre et coriace à la fois.
Oh. Et quand vous dites ligoté, il est ligoté, ligoté, il peut pas s'échapper.
Il est à ma botte, le cresson. Oh.
C'est bien de dire cresson et pas cresson, c'est visiblement en tout cas le film culte de Déborah Dupont.
J'ai tout de suite reconnu La Cité de la Peur avec Chantal Lauby et Gérard Darmon.
Absolument, la scène du restaurant en 1994, un film d'Alain Berberian, La Cité de la Peur, qui est un gros nanar bien culte et qui nous fait toujours aussi rire. Les marmites de l'amour mijotent à feu fort sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en compagnie en ce dimanche 10 février en direct avec Xavier Mathias, auteur de La vie érotique de mon potager aux éditions Terre Vivante. Il sort dans quelques jours. Et Bina Paradin, merveilleuse cuisinière, qui a mis au point pas mal de produits d'épicerie fine, où le gingembre est d'ailleurs assez présent.
En effet.
Bendy, je prononce bien ou pas ?
Très Bindi, oui, Bindi. Tout à fait. On propose des produits végétaux qui sont à la fois gourmands, sains et pratiques et accessibles.
Biologiques.
Biologiques, 100%, et notamment qui inclut du gingembre dans les recettes.
Eh oui.
Dans nos meilleures recettes, on a un riz curcuma-gingembre et un assaisonnement curcuma-gingembre qui permet d'avoir le goût du gingembre dans ses petits plats du quotidien.
C'est ça.
Sans avoir forcément le bout de gingembre dans son frigo.
C'est ça. Vous êtes d'origine indienne, vous êtes même né au Kerala.
Je suis né au Kerala.
Votre univers culinaire est bien entendu indien, mais vous allez bien au-delà. Est-ce que le gingembre chez vous, c'est plutôt en rhizome frais ou en poudre sec ?
Les deux. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire et de l'usage, parce que déjà dans la cuisine indienne, en fait, le produit gingembre frais et le produit gingembre sec ne sont pas le même, puisque l'un s'appelle, ils n'ont même pas le même nom. Le gingembre, si je le prends en malayalam, qui est la langue du Kerala, c'est l'inji quand c'est frais, et c'est le chouk quand c'est sec. Et l'usage n'est pas du tout le même au quotidien. Sur le gingembre frais, on va le travailler en cuisine, au quotidien, dans les currys, dans les légumes sautés, etc. Alors que le gingembre sec, c'est plutôt un ingrédient qui va être dans les préparations ayurvédiques pour faire une tisane, mais qu'on ne va pas utiliser en cuisine. C'est pas du tout un ingrédient culinaire du quotidien. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans l'usage du gingembre dans une cuisine au quotidien en France, c'est d'avoir son petit bout de rhizome frais qui puisse relever tous les plats du quotidien. Et notamment, moi, j'adore en hiver avec les légumes d'hiver, parce que oui, je trouve que l'alliance marche très bien. Et souvent en hiver, on a besoin d'un petit coup de soleil, peut-être petit coup de fouet aussi, que le gingembre va vous apporter.
Mais alors, est-ce qu'il faut définir, parce que là c'est aussi un peu ambigu, ce fameux gingembre frais extrait du rhizome qui permet comme ça de réveiller des légumes d'hiver, est-ce qu'on a une sensation de fraîcheur ou au contraire une sensation de chaleur ou bien les deux ?
Les deux, et ça dépend en réalité de la variété et de la maturité du gingembre. Puisque selon les variétés, si je fais une généralisation, les petites variétés sont souvent avec beaucoup de chaleur,
oui,
et pas beaucoup de fraîcheur. Alors que les rhizomes qui sont un peu plus gros sont très souvent beaucoup plus frais, beaucoup plus citronnés dans leur saveur. Donc du coup, c'est vraiment la composition de cet ingrédient qui permet d'avoir des saveurs très différentes dans l'assiette.
Vous commencez par quelle recette au gingembre ?
Alors, je vais commencer par la fondue de poireaux au gingembre.
Vous nous préparez ça ?
Voilà.
On va goûter, évidemment, quand on disait que le gingembre pouvait réveiller, évidemment. En plus, le poireau, c'est pas totalement anodin comme choix de légumes, Xavier Mathias ?
Ah oui, parce que le médecin de François Ier lui recommandait de consommer du poireau parce qu'il est bon et il donne bonne haleine pour mugueter les dames. Alors, voilà, je pense que nos goûts ont changé depuis. J'imagine que ça doit quand même donner une haleine assez forte. Et sinon, il y a le poète Martial aussi,
oui,
qui recommande de consommer du poireau et de l'échalote pour quand les nœuds de l'amour ont tendance à se desserrer avec l'âge.
C'est ça. et poirons, on ne citera pas évidemment certaines expressions de notre belle langue française. En tous les cas, le gingembre, petit point botanique, c'est délicieux, poireau et gingembre.
Merci le beaucoup. Gingembre, c'est une alliance
littéralement
extrêmement
le
simple, parce que c'est une fondue basique de poireau qui est relevée avec un peu de gingembre et un peu de poivre noir du Kerala.
Donc vous ciselez assez finement visiblement le poireau, vous y mettez essentiellement le blanc.
Le blanc fût, essentiellement, hein, exactement. On peut utiliser le verre pour faire un bouillon par exemple à côté. On fait fondre ça dans un peu d'huile ou de beurre clarifié ou de ghee indien. On fait aussi fondre une échalote en même temps. Mm-hmm. On rajoute du gingembre, on laisse mijoter une dizaine de minutes jusqu'à ce que le poireau soit fondu. Et enfin, on lit avec un petit peu de crème d'amande.
Ah, crème d'amande. On peut, si on n'est pas vegan, on peut éventuellement prendre de la crème fraîche.
Oui. En fait, moi, je n'ai pas une question de véganisme ou pas. C'est plutôt de diversité. Et j'aime bien ne pas avoir que des plats avec de la crème fraîche. J'aime beaucoup les crèmes végétales.
Excellent, vraiment prodigieux. Comment, sous quelle forme, on a compris que c'était du gingembre frais en rhizome, que vous épluchez légèrement?
Qu'on épluche toujours en grattant. On n'épluche pas avec un économe. Donc, selon les cultures,
ça, c'est
le gratte au couteau en Asie et à la cuillère en Afrique.
Cuillère, ça marche vraiment très bien.
Deux utilisations différentes. Et ensuite, on le détaille en lamelles, en bâtonnets, qu'on hache très finement. Et moi, je recommande toujours de hacher le gingembre très finement, parce que la saveur va mieux se diffuser dans le plat. Et si on est un petit peu paresseux, on peut utiliser un petit robot.
C'est ça.
Hachoir.
Xavier Mathias, le gingembre vous intéresse évidemment, comme tout ce qui pousse. Même si le gingembre n'est pas très familier de nos potagers, car sa culture sous nos latitudes est assez compliquée.
Oui, moi le gingembre, il fait plus que m'intéresser. J'adore ça et je suis complètement d'accord. Sauf qu'avec les légumes divers, ça passe super bien. Par contre, le gingembre m'énerve parce que j'y arrive pas, quoi, vraiment. On arrive à le démarrer, on arrive à le faire pousser. Ça fait une très jolie plante verte. Hein. D'ailleurs, je recommande vraiment. Hein. Vous le démarrez, même principe qu'un avocat, en fait. Hein. C'est super joli. Il pousse vraiment bien et tout, mais il veut pas faire de rhizome, quoi.
Vous le mettez un peu dans l'eau ou dans la terre à la maison et c'est une plante d'intérieur.
Alors oui, je le sors à la saison et puis l'hiver, si jamais il y a vraiment du froid. Trop dur, eh ben je le rentre. Alors ça marche très très bien ça pour les amateurs avec le curcuma. On peut vraiment produire son curcuma.
Cousin du gingembre.
Oui, chez soi. Même en ville par exemple, il est très joli, puis comme plante verte en hiver c'est plutôt sympa. On a un autre gingembre japonais qui s'appelle Zingiber Myoga, qui lui est rustique et très facile à faire, mais celui qui m'intéresse comme par hasard, l'officinal, mais impossible d'avoir un rhizome digne de ce nom, quoi. Alors il est joli, ça fait une plante verte un peu neuneux, quoi, mais bon, on y arrive.
Ça ne paraît pas illogique, puisque le gingembre, donc selon les textes, est soit d'origine indienne, soit d'origine chinoise, mais en tout cas c'est une plante asiatique. Et en Inde, pour le faire pousser, on va le laisser 10 mois sous terre. Et donc, en théorie, il faudrait pouvoir faire ça en France sans aucune gelée, sans aucune baisse de température,
voilà,
ce qui me paraît compliqué.
C'est le froid. Culture très complexe et capricieuse du gingembre, Zingiberacée. Donc on est condamné à l'importer, l'acheter bio de préférence, on est quand même bien d'accord là-dessus.
Oui, toujours.
Sans traitement, évidemment. Preuve que l'on peut intégrer du gingembre dans des recettes qui ne sont pas forcément exotiques. Vous nous proposez également, oulala, ça je sais que c'est très bon, une soupe.
Voilà, une soupe de potimarron au gingembre et au lait de coco, qui est relevée aussi avec quelques feuilles de coriandre fraîche.
Oui, oh là là, et là on va goûter ça, la recette est en train de tourner autour du plateau dont on va déguster. Racontez comment vous vous y prenez. Donc on part du potimarron qui est par excellence cette cucurbitacée d'hiver.
Voilà, que l'on lave, que l'on détaille en morceaux, pas besoin de l'éplucher évidemment,
ça, c'est
bio et qu'il n'a pas été traité. Le potimarron se cuisine très bien sans épluchage.
Et la peau se délite totalement à la cuisson.
Complètement, et on ne la voit plus du tout, surtout qu'une fois qu'on a mixé la soupe, on fait cuire le potimarron avec un petit peu d'ail, un petit peu de poireau, un petit peu de gingembre et une partie de lait de coco. Mmh. On va faire cuire ça 20-25 minutes jusqu'à ce que le potimarron soit parfaitement cuit. Vous rajoutez là le reste du lait de coco. Je reviendrai pourquoi rajouter le lait de coco en deux fois.
Oui.
Et on mixe ça avec quelques feuilles de coriandre et un peu de poivre.
Oui. Pourquoi en deux fois ?
Alors, c'est une technique qu'on trouve beaucoup dans la cuisine du Kerala, dans le sud de l'Inde, où on utilise beaucoup de lait de coco dans toutes les préparations. Et on va très souvent mettre une partie du lait de coco pendant la cuisson et une partie à la fin pour avoir un équilibre de crémeux et de saveur coco, que la saveur coco soit bien équilibrée dans le plat, qu'elle n'emporte pas le goût du légume et qu'elle soit cependant présente et crémeuse.
C'est ça. Et le gingembre intervient au début dans la cuisson.
On le fait, on peut le faire revenir avec le poireau et l'ail avant de rajouter le potimarron.
Ça marche très bien.
Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud ? C'est délicieux, non ? C'est
absolument très très bon.
Merci.
Et pour les personnes qui craignent le feu du gingembre, oui, les recettes de Bina sont quand même très très douces. Hein.
Mais on sent en même temps, moi je trouve qu'il y a des notes florales très intéressantes dans le gingembre.
Mais clairement, ça n'arrache pas la bouche. Donc ça, je tiens quand même à le signaler aux auditeurs, parce que je sais que beaucoup de personnes craignent le côté très épicé, notamment de la cuisine indienne. Et là, c'est très doux, c'est savoureux. Mais ça n'est pas piquant.
Vous avez bu trop de jus de gingembre de l'orange, je crois. Mais qu'est-ce que j'aime ? Moi, je suis carrément accro à jus d'orange, ananas, gingembre. Bina.
C'est un point effectivement très très important que souligne Déborah, c'est que dans l'usage du gingembre, pour moi, ça doit toujours être doux et ça doit venir souligner le goût du légume, mais ça ne doit pas l'écraser. Et donc c'est vrai que je n'aime pas l'usage qu'on fait souvent de mettre beaucoup de gingembre dans un plat ou dans une soupe. Je pense que c'est vraiment, ça doit être une alliance.
Est-ce que Bina, la cuisson tempère également l'ardeur du gingembre, lui enlève ses notes piquantes et poivrées?
Oui, bien sûr. Quand le gingembre est cuit, comme là, il est cuit pendant une vingtaine de minutes avec le potimarron, il est adouci par rapport à un gingembre cru dans lequel vous croqueriez.
C'est le contraire du poivre, donc.
Mmh. Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Parce qu'en l'occurrence, la cuisson avec le poivre aurait plutôt
poivre,
tendance...
Dès qu'on commence à le faire mijoter, il s'exprime de façon incontrôlable.
Et même voire un peu amer.
Hein, incontrôlable.
Oui. Amer et très piquante, en fait, parce que je trouve qu'on perd les autres notes du poivre quand on le cuit.
On parlait du poivre, entre autres épices. Est-ce que, justement, on peut considérer que les pipeurs, par exemple, cette famille des poivres, ont des vertus aphrodisiaques? Xavier Mathias.
Alors, on peut aller même carrément, franchement, sur le piment. Hein,
oui.
Voilà. Alors, le piment, méfiez-vous déjà du piment parce que la taille et la couleur n'ont rien à voir avec les effets, hein, quand même. Donc, on a des. Le piment, c'est une plante tout à fait étonnante, hein, qui s'est répandue très très rapidement. Donc, nous, c'est Christophe Colomb hein, qui l'a ramené.
Oui.
Ça, comme c'est une épice forte, finalement pas chère, simple à produire. Ben, on l'a très très vite adopté. Et en fait, le piment, la consommation importante de piment et de l'alcaloïde qui contient la capsaïcine favoriserait même la production d'adrénaline. Donc oui, il y a un effet quand même, c'est peut-être ça qui explique hein, d'ailleurs le succès généralisé de cette petite solanacée, de ce cousin de la tomate qui a vraiment une puissance autre que gustatif, quoi. Il a aussi une puissance sur l'ouverture des appétits, on va dire.
Et la force du piment n'est pas proportionnelle à sa taille.
Et non, 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 non.
Il y en a des tout petits, très vicieux.
Ah oui, il y en a des méchants. Là, celui-ci, celui que j'ai ramené.
C'est un piment oiseau?
Oui, c'est type oiseau. Il vient du Liban. Alors celui-là, bon, faut faire attention. Il est vraiment très, très costaud quand même. À la différence du réfort, d'ailleurs, le piment, il a un côté brûlant qui peut rester. Alors que le réfort est très fort, mais va disparaître après. Donc juste une petite parenthèse. Le réfort, il a aussi, bien sûr, des vertus aphrodisiaques, hein, composé soufré. Et voilà, donc on peut se consoler. Nous, on n'arrive pas du tout à faire du gingembre. Mais bon, voilà, on a le réfort quand même.
Qu'on surnommait quand même, c'est pas très sexy, la moutarde des moines.
Oui, c'est ça. Oui.
Concernant le réfort.
Et donc, on peut aussi, nous, en hiver, se consoler avec cette racine super puissante.
Ouh là là, de quoi s'agit-il ?
Ah ben ça, c'est le réfort, justement. Ah ben ouais.
Oui.
Ah oui, mais alors c'est un réfort particulièrement, si j'ose dire, long et phallique.
Ah oui, c'est théorie des signatures oblige, donc on a essayé d'en ramasser un qui ressemble un peu, quoi.
Oui. Eh ben écoutez, on va le rappeler, je vous propose ça va être la fête, parce qu'avec un peu de piment, comme vous écrivez que consommer en grande quantité le piment provoque l'émission d'endorphines, comme vous le dites si bien, devenant un euphorisant puissant, stimulant même la production d'adrénaline, vous le disiez. Voilà quelque chose de tout à fait surprenant si on veut se faire quelques sensations fortes en cuisine. Le piment, ça vous connaît également, Bina Paradin?
Oui, le piment est un ingrédient que je trouve très intéressant et qui a effectivement beaucoup de variétés qu'on ne connaît pas très bien en France et qui va avoir des niveaux de piquant très différents mais aussi des saveurs très différentes. Et moi, j'aime beaucoup les piments d'Amérique du Sud qui peuvent souvent avoir des saveurs chocolatées que l'on peut travailler aussi bien en sucré qu'en salé.
Vous évoquez le chocolat. Dans un instant, on lève le voile sur un formidable accord dont vous êtes l'une des maîtresses. C'est véritablement un accord en sucré qui marche très très bien. On ne va pas le révéler, mais c'est avec un fruit et du gingembre. Et vous nous révélerez également la recette de la tisane anti-froid de votre grand-mère du Kerala. Et ça, ça va intéresser tous les auditeurs qui toussent et qui se mouchent derrière leur transistor. Tout de suite, Déborah Dupont.
On va déguster. Sur France Inter.
Ça va, Débo, c'est appétissant, ça?
Appétissant, je ne sais pas. En tout cas, les réactions sur les réseaux sociaux, quand j'ai commencé à mettre les photos de ce que je préparais pour aujourd'hui, ont été très clivantes. On aime ou on déteste?
Moi, je trouvais que c'était plutôt rassurant comme réaction. Sur Instagram notamment, de quoi s'agit-il?
Alors de quoi s'agit-il? Eh bien il s'agit d'une nourriture beaucoup plus terrestre. Je suis allée chercher donc dans la littérature qui concerne la cuisine aphrodisiaque et j'ai trouvé un livre donc intitulé d'ailleurs La cuisine aphrodisiaque de Maïte Foulk aux éditions Philippe Piquier.
Donc un petit bouquin qui est devenu un peu une référence.
Exactement. Donc cet auteur en fait est spécialiste de la cuisine asiatique.
Je vais faire le service si vous voulez bien.
Alors Déborah, il va falloir vraiment choisir les morceaux parce qu'il y a à la fois de côté viande et côté fruits de mer, on va dire.
C'est ça.
Donc, c'est une auteure qui est spécialiste de l'Asie et qui s'est naturellement penchée sur la cuisine aphrodisiaque, car je ne vais pas vous apprendre que, notamment en Asie, les littératures médicales, philosophiques et érotiques témoignent depuis toujours de la préoccupation très masculine de se procurer le meilleur aphrodisiaque possible. Ça vous fait rire? Non mais c'est une préoccupation quand même beaucoup plus masculine que féminine. Hein. On parle depuis tout à l'heure de François Ier, de Louis XIV, Louis XV.
Ça ne fait pas rire.
Donc on est quand même sur des préoccupations qui concernent plus l'homme. Et donc elle décrit les Indes galantes, donc à base de ghee, de yaourt, de cardamome notamment, les nuits de Chine, ciboule ni l'hirondelle, les frissons nippons à base de saké et de mirin. Un chapitre est dédié au ginseng, un autre aux épices, et je suis allée piocher la recette du jour dans le chapitre intitulé « Bestiaire de la luxure ».
On ne sait toujours pas ce que c'est, mais c'est très intriguant.
Et oui.
Et d'ailleurs, visuellement, c'est tout à fait déroutant. Vous regardez votre assiette avec un drôle d'air, Mina Paradin, que se passe-t-il?
Je trouve ça intéressant.
Vous avez goûté?
Non, pas encore,
En bonne végétarienne, vous allez adorer, je sens.
Je pense.
Comme il était bien évidemment inenvisageable, tant pour des raisons éthiques que pratiques, que je cuisine de la corne de rhinocéros, des nids d'hirondelle ou encore du pénis de tigre ou de cerf, Je me suis tournée vers des nourritures plus trouvables en France. D'abord les huîtres, les huîtres qui sont classiquement qualifiées d'aphrodisiaques, de par leur teneur en zinc, qui effectivement favorise l'érection et la production de spermatozoïdes. Et quant aux rognons, ils sont directement liés pour les Chinois à la sexualité, le fameux coup de rein.
Donc,
nous avons une recette de rognons de veau, aux huîtres et au gingembre.
Waouh, il y a du gingembre. C'est bon, hein?
Il y a du gingembre, il y a deux sortes de gingembre. Il y a du gingembre confit. Donc, vous savez, le gingembre confit, c'est quand même quelque chose de très puissant, sucré. Donc, il faut faire mariner la veille, couper en fine julienne dans du vin blanc. Et il s'adoucit énormément. Donc, ça, c'est la petite julienne qui était posée par-dessus. Et ensuite, la recette est très très facile à faire et très rapide. Il suffit de parer les rognons en conservant la graisse, de les couper en dés, de faire fondre la graisse des rognons dans un wok ou dans une grosse poêle. On saisit du gingembre, de l'ail, du piment, des dés de rognons à feu vif. On ajoute les huîtres qui ont été décoquillées. On déglace avec un petit peu de sauce d'huître, le vin blanc de la marinade. On ajoute la julienne de gingembre confit. Et l'auteur conclut par déguster et attendez les effets secondaires.
Et très franchement, c'est réussi, hein?
C'est délicieux.
Qu'est-ce que vous en pensez autour du plateau?
Ah, moi, je trouve ça très bon. Je trouve qu'il y a un peu un côté vouloir mettre toutes les chances de son côté, hein, parce que il y a vraiment un cumul quand même. Hein.
C'est ça. Et ça manque un peu de légumes, non? Ça vous dérange pas trop, Xavier?
Non, là, vu comme ça, non, je prends même plutôt bien.
C'est ça. Arnaud? Ah, bouche pleine?
Oui.
Ça arrive?
Ben, moi, j'aime bien les rognons moins cuits, j'avoue. Et c'est vrai que, voilà. Et je partage un peu l'avis de Xavier. Il y a un côté, je cumule.
Mais oui, mais moi, je trouve ça.
Je mets toutes les chances de mon côté.
Je trouve que l'huître et la sauce d'huître donnent une dimension aux rognons très différente. On l'emmène ailleurs.
Ce qui est intéressant, et comme souvent d'ailleurs dans la cuisine même médiévale hein, de notre bonne vieille France, on se sert de l'huître pour saler, et on a bien raison, parce que c'est un sel qui est tout à fait intéressant chaque fois. Et les canettes aux huîtres, on a connu des recettes comme ça, et c'est vrai que ça c'est très intéressant. Alors je sais pas ce que ça va donner, je suis moins... comment dire, impressionné par l'alliance avec le gingembre confit adouci, qui me paraît...
Superfétatoire.
Et ben ouais. Et ben on peut le faire sans. Bah allons-y, allons-y gaiement en tout cas. Vous nous rappelez l'origine de cette recette, Déborah ?
Le livre La cuisine aphrodisiaque de Maïte Foulk aux éditions Philippe Piquier.
Et cette recette figure bien entendu sur le site internet de l'émission. Et sur le site internet de l'émission, il y a également la référence d'un livre que je vais vous faire découvrir. Une fois n'est pas coutume, vous êtes patronne de la librairie gourmande. Quand je vous ai demandé, est-ce que tu as parlé du livre Braise-moi ? Vous m'avez dit de quoi s'agit-il?
Je n'ai jamais entendu parler de ce livre.
C'est un manuel de culture queer dans la cuisine avec des recettes, figurez-vous, aussi inspirées que la bouillabaisse, le mi-cuir au chocolat, les falafels, le burger queen, le saumon travelax, le fist and chips. Émilie Bouvier, photo Anne Bouillon. Et au-delà des jeux de mots évidemment très tarte à la crème de ce livre, il est très sérieux, et très sérieux notamment au niveau des recettes avec cette belle couleur rose fluo. C'est un cadeau, Déborah.
Merci, et j'imagine que c'est une auto-édition, donc il va falloir trouver ça en ligne.
Assez rapidement, oui, je crois qu'on peut effectivement se le procurer en ligne. Revenons sur le gingembre et puis on va évoquer quelques autres petites plantes évidemment avec Xavier Mathias. On vous avait promis, chers amis, cette tisane anti-froid. On évoquait à l'instant des épices et notamment le poivre. Eh bien ça tombe bien, ces épices interviennent dans cette recette qui a vraiment une origine familiale. Bina Paradin, excusez-moi.
C'est en effet une recette qu'on se transmet, je pense, depuis des générations dans ma famille, que j'ai apprise de ma mère qui... elle-même l'avait apprise de ma grand-mère. Et c'est une tisane assez magique, en tout cas, qui marche très bien sur moi. Où, lorsqu'on commence à avoir un petit peu froid, être un peu enrhumé, 24 heures de cette décoction, vous êtes en général remis sur pied. Donc, c'est une tisane, une décoction, plus précisément, qui contient du gingembre sec, donc le fameux chouke, avec du poivre, avec de la cardamome et du jaggery, de la mélasse de sucre de canne non raffinée.
C'est ça, on pile tout dans un mortier.
Voilà.
Capsule de... Enfin, il y en a deux, hein, capsule de cardamome, 5 grains de poivre, du gingembre. Et
On pile tout ça, on le met dans de l'eau, on fait bouillir pendant 10 minutes et on peut en consommer toute la journée.
Très bien. Quel est le fruit le plus coquin et le plus copain avec le gingembre? En plus, c'est un fruit de saison, ça tombe assez bien.
Alors, le fruit qui pourrait tomber amoureux du gingembre, c'est pour moi la poire.
Oui, la poire. Comment vous vous y prenez?
Alors, l'alliance poire-gingembre marche très bien. J'avais oublié de préciser tout à l'heure que le gingembre est aussi, je trouve, une épice très intéressante parce que c'est l'une des rares épices qui se travaille toute seule. Vous n'avez pas forcément besoin de mélanger avec d'autres épices pour obtenir un mélange d'épices équilibré. Elle suffit à elle-même. Et j'aime donc beaucoup cette alliance poire-gingembre que je vous ai fait sous plusieurs formes.
Incroyable. Non, mais alors ça, c'est quand même quelque chose. Il faut prendre une photo.
Donc là, c'est un dessert. Vous m'avez demandé un dessert très Saint-Valentin.
Oui.
Donc j'ai pensé à l'alliance poire-gingembre et chocolat. Parce que le chocolat a aussi une réputation aphrodisiaque, notamment dans sa mythologie aztèque. Et donc, c'est un moelleux au chocolat avec une poire qui est confite au gingembre. Et là, pour le coup, j'ai voulu faire une composition d'épices. Et donc, c'est un mélange de gingembre, vanille et un tout petit peu de poivre rouge.
Alors, comment on s'y prend? On a nos poires, on choisit quelle variété?
Alors, on peut prendre des plutôt petites poires pour la praticité. Donc, des martins secs, par exemple, marchent très bien.
On les épluche,
on les vide. On les met dans de l'eau avec un peu de miel, un peu de gingembre, un peu de vanille et une pointe de poivre rouge. On fait cuire les poires pendant 25 à 35 minutes selon leur niveau de maturité.
À feu doux,
on les laisse dans leur sirop. On fait ensuite une mousse au chocolat.
Oui.
Et l'on va répartir sa mousse dans des petits ramequins, mettre la poire et à l'intérieur de chaque poire, on met un petit carré de chocolat.
Excusez-moi, la poire, on la dispose au milieu, c'est ça qui est intéressant.
On la dispose au milieu, exactement.
À la sortie de la cuisson, elle dépasse et il y a la tige dressée, qui est d'ailleurs très évocatrice, mais qui est en tout cas au milieu.
Exactement, et c'est une recette dont je me suis inspirée d'une recette de Christophe Saint-Agne et Alain Ducasse dans Nature, et je l'ai retwistée à ma sauce avec ce mélange gingembre, vanille, poivre.
Merveilleux, Christophe Saint-Agne, le chef de Papillon hein, dans le 17e arrondissement.
L'équilibre est remarquable au niveau du sucre notamment, puisque c'est très peu sucré finalement.
Alors ce n'est pas sucré en réalité, puisqu'il y a un tout petit peu de miel dans la poire et dans le chocolat, une cuillerée pour monter les...
Et c'est absolument remarquable, du coup c'est d'une légèreté tout en léger. Bouche, ça passe tout seul, c'est vraiment magnifique.
Voilà, il va entrer dans le top 10 des desserts les plus appréciés dont on va déguster, ça je vous le garantis. Non mais franchement, c'est vraiment délicieux. La recette sur le site franceinter.fr à la page on va déguster, comme quoi les usages du gingembre sont multiples et absolument insoupçonnés. Bravo pour ce dessert de la Saint-Valentin. On évoque pour finir quelques autres petites plantes. J'ai beaucoup ri en lisant vos propos autour de la roquette ou de la sarriette.
Ah oui, la sarriette, oui, c'est le...
Xavier Mathias.
C'est Satureia montana, donc c'est le satyre des montagnes, la sarriette, puisque les pâtres s'étaient rendus compte que quand les ânes broutaient la sarriette, ils avaient des érections absolument phénoménales. Oui. Et donc, voilà, elle a été interdite de culture, même chez les bénédictins. Hein, la règle de Saint-Benoît interdit de cultiver la sarriette, comme on interdisait aussi de cultiver la roquette, saveur chaude, si on reprend la théorie
des humeurs.
Voilà, et comme on interdit aussi tout simplement le poivre, donc il y avait le poivre des moines, le gâtillier, qui avait comme réputation de couper toute envie à ces messieurs, et même toute capacité.
C'est ça, parce qu'il y a aussi, c'est dans le livre, mais on n'a pas le temps malheureusement, de Xavier Mathias, à éviter en période de Saint-Valentin, notamment la capucine, le houblon, la laitue, qui là, pour le coup, calme les ardeurs. La vie érotique de mon potager, préfacé par Anna Gavalda, c'est chez Terre Vivante, remarquablement bien écrit, ça se lit vraiment comme un roman. Bina Paradin, merci beaucoup. Votre gamme Bindi, de produits bio et végétariens, les références sur le site internet. La semaine prochaine, on vous emmène à la découverte d'un des plus beaux terroirs du fromage au monde, la Suisse. On va notamment vous apprendre à faire une superbe fondue. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.